Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+, ou sur radioallianceplus.fr. Vous écoutez Si l'on parlait de la Provence, une série d'émissions, vous l'avez compris, sur notre belle Provence. Je suis le docteur Jacques Jaume, je produis et j'anime cette émission avec un intervenant, un invité permanent, un provençal, le docteur Philippe Règue, doctoresse littérature en provençal, majorale des Philippe Règue, qui est aussi académicien, membre de l'Académie de Saint-Gilles de la Camargue. Bonjour à toi, docteur Philippe Règue, bonjour à toi Philippe, et merci d'être encore avec nous pour partager ton affection pour la Provence.
Bonjour à tous qui nous écoutent, et bonjour Jean-Marie.
Nous allons évoquer aujourd'hui la langue que l'on parle en Provence, qu'on appelle le provençal. Tu es un spécialiste, puisque tu as passé une thèse en provençal. Rappelle-nous le titre.
Alors, c'est Charles Galtier, de l'ethnologue à l'écrivain.
Alors, quand tu passes ta thèse en provençal, bon, tu l'écris évidemment en français pour que ça soit lu pour tout le monde. Mais est-ce que tu parles provençal quand tu la présentes en provençal?
Non,
tu l'as présenté en français.
La présentation se fait en français, puisqu'il y a des gens, dans le jury, il y a des gens qui viennent un petit peu de partout, qui ne sont pas censés connaître la langue, c'est pas forcé. Et puis, bien sûr, il y a du provençal, puisque quand on évoque un auteur, par exemple, comme je l'ai fait avec Charles Galtier, ben, ma foi, on est obligé de parler, oui. Oui, tout à fait.
Alors, le provençal, dont l'endonyme provençau, selon les graphies et la variété de l'occitan parlé en Provence, dans l'est du Languedoc et pour certaines dans la vallée occitane du Piémont.
Oui.
Hein, c'est ça, je prononce bien là ou du.
Provençau.
Provençau.
Provençal, puisqu'en provençal, on vocalise le L final qui devient AU, AU.
Voilà.
Mais on parle provençal ou provençau.
D'accord. Nous n'avons pas parlé du provençal lui-même, mais parler provençal, mais le citer dans le domaine de la langue occitane. L'occitan est une langue romane, c'est-à-dire qu'elle est issue du latin, comme l'espagnol, le français, l'italien, le portugais, le roumain. Hein. Sa particularité est d'avoir été influencée par les langues qui étaient parlées avant l'arrivée des Romains, le gaulois, l'aquitain, le ligure. Alors évidemment, peux-tu nous en dire plus?
Oui, ben, on l'a dit il y a deux mois. On le disait il y a deux mois dans l'émission, effectivement, ce latin populaire que les Romains voulaient installer comme langue commune a été interprété par beaucoup de tribus différentes, d'obédiences différentes. Alors, effectivement, quand un Visigoth, un Ostrogoth parlait le latin populaire, eh bien, ça donnait des couleurs à la langue. De là sont nées toutes les langues romanes.
C'est ça. Alors, il y avait le latin littéraire, hein, qu'on lit dans les textes. Il faut rappeler qu'on n'a pas de textes originaux, hein, de romains. C'est que des recopies. On a des textes, on vient d'avoir des textes à Herculanum, parce que des rouleaux ont été conservés. Maintenant, avec des techniques d'intelligence artificielle, on a pu reconstituer des vrais textes romains. Hein, donc, jusqu'à présent, c'était que des... donc, il y avait le latin classique que les Romains parlaient et écrivaient, le latin juridique, etc.
Les copistes, l'église.
Voilà. Hein. Bon, mais, et puis, il y avait le latin populaire que les gens parlaient dans la rue. On le retrouve un peu. Maintenant, on le retrouve avec le français. C'est-à-dire qu'il y a le français de l'Académie française que plus personne ne parle. Hein. Parce que dans les radios, à part nous, bien évidemment, mais dans les radios, non, mais dans la rue, etc., il y a beaucoup de prises de d'autres langues, notamment de l'anglais, de ceci. C'est devenu une nouvelle langue. Des fois, on ne comprend pas. Quand les jeunes parlent, c'est des fois difficile. Il y a même de l'apport de langues maghrébines, comme le chouf, Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le monde maghrébin, où il y a l'arabe littéraire, donc l'arabe du Coran et des érudits du Coran, et puis il y a les dialectes locaux, hein, qui se comprennent, où il y a du berbère, de l'arabe, et puis du français. Hein, la langue de l'Empire romain, il y avait les latins pur et dur, les lettrés, et puis dans le marché, tout ça, on parlait un latin populaire qui n'était pas le latin qu'on connaît. Et c'est bien ça. Et c'est là-dessus que le provençal a.
Et donc, ces langues romanes sont nées. Alors aujourd'hui, le roumain est un peu géographiquement isolé parce que entre le territoire où se parlent les langues romanes et la Roumanie, il y a un vide géographique parce que toutes les langues qui étaient entre les deux sont mortes. Mais le roumain est une langue romane, comme l'italien, qui sont restés très proches du latin. à l'instar de...
Voilà, alors j'ai lu que, en fait, la langue qui se rapproche plus du latin parlé, c'est l'italien.
L'italien et le roumain aussi. Et le roumain, c'est très beau. Hein. C'est très, très beau.
Non, je ne connais pas le roumain.
Ah, c'est merveilleux, pas lu par moi. Hein. Parce que lu par moi, c'est haché.
Oui.
On dirait de l'allemand. Oui. Mais lu par une amie qui était roumaine, qui m'a appris à lire le roumain, c'est d'une beauté inouïe. J'ai lu Le Petit Prince en roumain, puisqu'on a étudié Le Petit Prince en toute langue roumaine à l'université. Et je veux dire qu'en roumain, ça sort très bien, lu par des roumains.
Oui,
mais
oui.
Ce sont des langues romanes. Et donc, effectivement, la langue d'oc a émergé. Alors, on a des traces quand même écrites, notamment au concile de Tours en 813, où il a fallu écrire une bulle qui disait « Dorénavant, il faudra que les prêtres disent leurs homélies en tudesque, donc en allemand de l'époque, puisqu'on était dans l'Empire, et en langue romane vulgaire, pour que les ouailles à l'église comprennent ce qui se disait. » On en était là. À un moment donné, est arrivé, il y a eu des mots qui se sont créés, qui n'étaient plus du latin et qui n'étaient pas encore cette langue en devenir.
Ouais.
Eh bien, on a les traces dans cette bulle.
Concile, oui.
Et en 843, quand les deux petits-fils de Charlemagne se sont alliés pour tenir targue à leur frère Lothaire, qui nourrissait des velléités d'agrandir son territoire, il était coincé entre Louis-Pieux et Charles le Chauve, il était coincé entre les deux, il voulait tendre son territoire, et là les deux frères ont signé les accords de Verdun, où ils se sont jurés entre aides, et là-dedans, alors on voit le futur, alors ce qui est étonnant, c'est qu'on voit prendrai, dirai, on voit des mots qui sont déjà le futur grammatical, puisque le latin n'avait pas de futur grammatical, il avait un futur de synthèse, synthétique, qui était des temps périphrastiques. Et donc là, on voit prindrai, dirai. C'est étonnant de voir déjà en 843 de voir un futur, ce qui est devenu le futur grammatical, comme toutes les langues romanes ont fait.
Ouais.
Quand on dit je chanterai, ben on prend le radical du verbe, on rajoute la désinence du verbe avoir au présent de l'indicatif.
Et bien, on voit que tu es spécialiste de la langue. Quand même.
C'est un feu qui me dévore.
Il faut vous dire que Philippe a quand même rédigé une grammaire provençale qu'il essaie de faire corriger, mais tout le monde n'est pas d'accord.
Ouais, voilà,
et que je l'encourage à publier parce que c'est quand même important.
Il y a 8 ans qu'elle est faite.
Il faudrait la publier.
Oui, mais je donne mon temps aux autres et pas beaucoup pour moi.
Mais sinon, on t'en remercie que tu donnes ton temps aux autres, mais tu donnerais aussi l'envie aux autres d'apprendre la grammaire provençale.
Ben oui. C'est particulier la grammaire provençale. D'abord, il y a la grammaire romane, ça remonte aux grammaires romanes de Joseph Anglade, d'Edouard Kosvitch. Ce sont des grammaires précieuses parce que. Et puis de Jules Ronja aussi. Et ce sont des grammaires qui nous montrent comment on est passé du latin. Comment la langue d'oc s'est créée, pourquoi aujourd'hui on a des accents sur les hauts, pourquoi il y a les spécificités de la langue provençale, on va les chercher dans la...
Vous remarquez que je laisse parler le spécialiste. Bon, pour vous, auditeurs, ce n'est pas forcément pertinent, mais ça vous montre la culture d'un linguiste. Donc c'est intéressant,
parce qu'on
parle toujours du provençal en parlant provençal, en disant on dit ça en français et en provençal, mais c'est aussi intéressant, et c'est pour ça que cette émission un peu spécifique,
mais je veux dire, on pourrait faire
d'avoir des choses spécialisées. Quoi.
On pourrait faire le parallèle avec la langue d'oc, le côté languedocien.
Et bien voilà, justement, ma prochaine question, c'est une question de géographie, linguistique-géographie. Où parle-t-on l'occitan ou le languedoc?
Alors, aujourd'hui, c'est simple. L'Académie a un petit peu pris des décisions quand même. Et il y a 32 départements qui constituent le midi de la France, donc un tiers du territoire national d'aujourd'hui.
Un tiers, c'est énorme.
Voilà, donc 32 départements où se parle. Il y a deux graphies officielles. Enfin, il y a deux graphies officielles, c'est la graphie classique, dite classique, que Louis Alibert a installée, et la graphie mistralienne. Alors, évidemment...
Louis Alibert, c'était qui?
Louis Alibert, c'était le... Il était secrétaire du groupe d'études occitanes en 1935, et quand en 1945, est né l'Institut d'études occitanes, l'IEO, qui existe toujours, bien Louis Alibert y a contribué. Et ça a été un des fondateurs de la partie occitane, comme Mistral a été en Provence il y a 172 ans. Eh bien, l'Occitanie a suivi, avec Louis Alibert notamment.
D'accord.
C'est pas le seul. Voilà, donc,
alors, revenons à nos 32 départements.
Alors, 32 départements. Alors, on parle bien sûr, si on veut parler, si on veut parler de dialecte, pour dire un autre mot, on a le Gascon, l'Aquitain, le Limousin, l'Auvergnat, le Franco-Provençal, le Languedocien, enfin, le Gascon, on a quand même
d'autres
parlés.
Oui, d'autres parlés.
Mais pour ce qui rejoint l'Occitanie, on va dire qu'on a l'Occitan, la langue d'oc, l'Occitan-Languedoc, Donc, tu es fait d'un parler languedocien et dérivé, parce que l'occitan aussi, ça, c'est pas très précis. Il y a beaucoup de parler. Comme en provençal, on dit provençal, mais rien que dans le Var.
Il y a beaucoup de provençal.
Il y a le maritime, il y a le varois, il y a le niçard. Bon, le niçard, c'est particulier. C'est une langue.
Ça va jusqu'à Nice.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Ah ouais. Donc, c'est très
difficile. Et est-ce qu'il y a des différences entre ces dialectes provençaux, d'une ville à l'autre, d'un village à l'autre? Tout le monde se comprend, parce que quand on parle provençal, tout le monde se comprend. Mais est-ce qu'il y a des petits...
Alors, l'intercompréhension, elle existe.
Excuse-moi de t'interrompre. Par exemple, à Nîmes, il y avait un patois... particulier à Nîmes, quoi. Hein. Vous alliez dans les Halles, il y avait, au lieu de dire ne pas toucher, il y avait ne pas tripatouiller. Hein. Donc il y avait on disait pas un squelette, on disait un esquelette. Je veux dire, il y avait quand même parlé nîmois qui a complètement disparu. Ouais, moi, j'allais aux Halles, les gens qui vendaient aux Halles parlaient le nîmois. On disait le nîmois.
Alors tout ça s'expliquerait d'un biais linguistique, mais je veux pas.
Oui, non, mais là c'est trop technique.
C'est technique, mais c'est passionnant, parce que quand on connaît les mécanismes d'une langue et qu'on la parle, c'est charmant.
Mais
effectivement, donc, ces graphies, il y a plein de parlers, il faut admettre cette pluralité.
Et le provençal, donc, il y avait plusieurs parlers provençals, mais tout le monde se comprenait. Mm-hmm. Mais pour toi, le provençal et l'occitan, c'est la même chose, en fait.
C'était la même chose. J'ai décrypté des manuscrits aux archives municipales d'Arles, donc des manuscrits qui traitaient de testaments, d'inventaires, qui ont été écrits par des secrétaires de mairie, des gens qui étaient érudits. Et j'ai fait la démonstration qu'effectivement, je n'ai pas l'audio de cette époque, mais l'orthographe, il y avait le T du parti passé, le R de l'infinitif, le pluriel, qu'on a perdu après avec la réforme de la langue par Mistral.
Ouais.
Mais on retrouve quand même un corps de langue qui se ressemble.
Ouais,
mais je n'ai pas l'audio de cette époque-là.
On ne peut pas l'avoir, parce que c'est trop ancien. Et alors Mistral a quand même transformé le provençal.
Il a réformé le provençal pour en faire une langue accessible. Donc effectivement, il fallait, parce que ce qui s'est passé, c'est que...
Il était quoi ?
Il avait passé une licence de droit à l'université, à la faculté de droit d'Aix-en-Provence.
Oui,
il était helléniste, latiniste.
Oui, mais à l'époque, tout le monde l'était.
Oui, tout le monde l'était.
Ouais. Mais, à force d'auder son frère aussi, faisait latin,
c'était sa formation initiale, comme à beaucoup d'ailleurs.
Mais pour avoir le bac, c'était un bac latin grec.
Il a passé son bac à Nîmes, Mistral.
Tout à fait. Oui, il y a une chambre où il était...
Dans l'ancienne mairie.
Une photo.
Dans la mairie, pardon.
Et donc, il a réformé pour que ça soit plus accessible.
Il a réformé parce que... c'est-à-dire, c'était une nécessité. Ce qui s'est passé, rapidement dit, à la sortie de l'Ancien Régime, en 1649, quand le dernier baroque est mort...
Quand tu dis baroque, c'est quoi ?
C'était un art. C'était une façon d'écrire, d'être.
Une façon d'être.
De peindre, de jouer de la musique.
Une façon d'être de la culture baroque.
Voilà, culture baroque, de surcharger les corps d'église et tout, les églises baroques, on les reconnaît de suite. Et donc, quand on est sorti de la Louis XIV, qui était jeune, qui était encore sous la régence d'Autriche, il a installé le mouvement classique. Donc, le français devait prendre le dessus. Et effectivement, la langue, donc la littérature, je dirais de Languedoc, c'est un peu éteinte. C'est même bien éteinte.
Oui,
donc, une langue privée de sa littérature, elle est devenue un patois. C'est pour ça qu'on dit le patois, c'est ça. Pendant deux siècles, de 1650 à 1850, on va dire que la langue a été rendue à son autonomie et est devenue un patois. Imaginez quand, entre 1800 et 1850, des gens se sont remis à écrire dans leur langue, pour différentes raisons, ça a été un florilège de parler, on écrivait comme on parlait.
Oui.
Et je ne vous dis pas, c'était incompréhensible.
Donc lui, il a mis de l'ordre.
Voilà,
mais il n'était pas linguiste, c'était pas un linguiste, c'était un juriste.
Il était lexicographe et lexicologue, philologue aussi, parce que son dictionnaire le montre. D'ailleurs, son prix Nobel vient beaucoup de sa qualité de philologue. Il était lexicographe et lexicologue dans la mesure où il a créé un dictionnaire de 80 000 entrées, de 2000 pages, le trésor du Félibrige, que d'ailleurs on est en train de remettre à jour avec le conseil de l'écrit mistralien,
une
fois par mois.
Ah,
évidemment, et je suis très, très fier et très heureux de faire ça, parce que quand on est à l'origine de la décision, on comprend mieux pourquoi on les prend, et c'est intéressant, c'est passionnant d'ailleurs. Et c'est la première fois qu'on remet le dictionnaire de Mistral à jour. On en est à la lettre V, on a commencé la lettre V, je vous dis pas bon. Enfin, c'est l'histoire, la langue qui continue.
Vous avez commencé par la lettre V ?
Non, on en est à la lettre V.
Ah, donc c'est bientôt fini, alors.
Oui, mais enfin, quand on sera jeune, on recommencera.
Vous écoutez bien l'émission, et si on parlait de la Provence sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM ou en DAB+, avec Philippe Règue, docteur, vous l'avez compris, docteur S littérature en provençal et spécialiste linguistique, majoral du Félibri. Je vous propose une trêve musicale avec Margarido Mamio, chanson traditionnelle provençale avec l'ensemble Azalaïs.
Margarido Mamio. mi premieris amour, te fau tuca daubado, daubado de tambour.
M'embarrasse daubado de que li fai tuca, sa codura pluca, aire io manera inega.
Sa codura pluca, aire che te vagues nega, io me farai nadaire, et anarai sauva.
Se te te fas nadaire, per me verai nadan, io me farai languelo, te scaparai di man.
Se te te fas languelo, che me scapes di man, io me farai pescaire, et t'aurai un pescan.
Se te te fas pescaire, per me verai un pescan, io me farai la rose de qui au Pakistan grand.
Vous écoutez Et si l'on parlait de la Provence avec Philippe Reigue, une émission produite et animée par Jacques Jom sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. Comment exactement se situe le Provençal dans la géographie des langues occitanes? On a dit évidemment que c'était la même chose tout ça, mais quelle est la particularité du Provençal? Quand on parle le gascon, quand les gens disent je parle l'occitan à Toulouse, et les gens qui à Aix parlent le Provençal, quelle est la particularité, les différences?
Alors, les spécificités du Provençal sont diverses. C'est des spécificités linguistiques, le haut final, la nasale finale, la nasale de camping, c'est ouais. Qui n'existe pas.
Donne-nous l'exemple d'un
mot. Louvain.
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 Louvain. Et ça veut dire
ben, alors le vent, le vin.
Oui.
Ben, bien, Louvain.
Ben. D'accord.
C'est un nasal qui. Enfin, ça s'explique très bien aussi par
oui,
le
oui, par la phonétique. On ne peut pas.
On ne peut pas aller plus loin. Mais c'est pour dire que la nasale finale est une caractéristique provençale, des spécificités. Après, il y a la palatalisation qui peut faire que certains sons, nous, on colle la langue au palais, alors que d'autres. Enfin, nous, la langue, on la tient en bas, alors que d'autres la collent au palais. Quand oui. on dit souleu, eh bien, si on veut dire souleu, si on laisse la langue.
Tu nous donnes
la
traduction en français, soleil.
Le soleil.
Soleil.
Eh bien, par exemple, en Limousin, on dira chouleu, parce qu'on met la langue
oui,
contre le palais.
Oui,
c'est donc une palatalisation. Bon, c'est un terme linguistique, mais c'est comme ça qu'on revoit.
Oui, mais
qu'on
peut comparer. Sur la langue provençale, donc il faut des termes.
Et en comparant, on apprend aussi.
Oui, oui.
Et donc, il y a des spécificités linguistiques, mais après, quand on discute avec un languedocien, bah, il y a l'intercompréhension, parce qu'en fait, il peut y avoir des différences de graphie, mais à l'oralité, il y a un rapprochement sérieux qui se fait. Alors, on est toujours en train de stigmatiser les petites choses qui nous séparent, mais on oublie souvent de parler des grandes choses qui nous réunissent.
Ça,
c'est regrettable, parce que c'est des luttes de clochers inutiles. Moi, franchement, quand on dit occitan, languedoc, bon, on parle une langue, on parle...
Alors, c'est une idée de vraiment, en langue, je ne connais pas, je sais tout juste le français. Mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une réforme en créant le vocable d'une langue qui rassemblerait tout ça, en fait?
Moi, je pense que
Au lieu de parler de provençal et d'occitan, on dirait d'occitan-provençal.
Pour l'appellation, il faudrait. Enfin, on y est un peu avec l'occitan-languedoc, et encore que, mais on y est quand même. Mais moi, je pense que tous les gens qui ont dit il y a un peuple, une langue, au-delà, c'est la faute, pour moi, c'est une erreur. La richesse de la languedoc, c'est sa variété.
D'accord, pour toi c'est d'accord.
Il est évident que si deux paysans limousins discutent entre eux, que vous êtes présent et qu'ils veulent que vous compreniez, vous comprendrez. S'ils ne veulent pas que vous compreniez, c'est par l'accent, la rapidité. Et puis les parler spécifiques.
Oui, mais ça c'est comme quand un étranger parle français,
voilà.
Quand on est français,
voilà.
Si on veut, voilà. il faut vraiment des gens. Il y a certains guides francophiles qu'on trouve, par exemple, moi je l'ai vu surtout dans le Maghreb, où ils font des jeux de mots en français, des choses
oui.
comme ça. Donc là, ils possèdent la langue,
oui.
mais quand vous allez dans des pays éloignés de la France où ils ont appris la langue sur place, ils ne font pas de jeux de mots. Quoi,
d'ailleurs, c'est l'effet de paresse articulatoire qui sévit dans toutes les langues. Au sud de l'Espagne, on ne dit pas « todo está aquí », on dit « tosta aquí ».
Oui.
Nous, en français, on ne dit pas « je ne sais pas », on dit «
je sais pas ». Oui,
je sais pas. Donc imaginez un Chinois qui apprend le français, on lui dit « je sais pas », je ne crois pas, je sais pas s'il a le droit
de découvrir. Ça.
Bon, c'est pareil pour tous, pour tout le monde. Mais cette langue, pour moi, moi je ne fais pas de différence. Parce que moi je suis né à Aix, ben, je parle le provençal. Je serais né à Montpellier, je parlerai l'occitan, tout simplement. Il y a pas, ce sont nos frères. Enfin, on est tous frères. On est tous, d'ailleurs, on est embarqués dans la même galère. Parce que pour faire valoir cette langue auprès de l'éducation nationale, c'est très compliqué. On a tous la même problématique. Donc,
oui.
Soyons unis.
Et l'administration le conçoit, ça enfin, vous facilitez les choses ou au contraire veut...
Ah non. L'administration, on ne veut pas entendre parler de... il était un temps où la langue d'oc avait matière de s'exprimer dans l'administratif, la justice, la religion, le commerce, etc. Donc ça, c'était la belle époque. Et c'est ce que nous, on aimerait reconquérir, en quelque sorte, oui, sans revenir au tout Languedoc. Oui, oui. Il n'est pas question, on est français d'abord. Hein.
Oui,
je souligne
oui,
bien.
Oui,
hein.
Non, mais ça, tu l'as
mais,
dit au départ.
Mais effectivement, enseigner le provençal, d'abord... tout à l'heure, tu faisais état de la façon dont on parlait le français, qui n'est pas très,
oui, c'est ça,
pas
c'est
très
plus,
académique.
Le français des rues n'est plus le français académique.
En provençal, le subjonctif imparfait devient un frère, parce qu'il n'est pas question de dire « je voulais qu'il vienne ».
Oui.
Alors « je voulais qu'il vienne », ce n'est vraiment pas français du tout.
J'en profite pour m'insurger. Quand les gens écrivent un mail, c'est « bonjour ». Enfin, je veux dire, c'est absolument « bonjour, bonjour Jacques, bonjour Pierre, bonjour ». Non, on écrit un mail comme on écrit une lettre. Cher monsieur, cher Jacques, cher oui, Paul. Mais... bonjour, c'est, ça existe depuis 10 ans. Avant, si on faisait une lettre en disant bonjour, la lettre revenait.
Oui, le majorat du Félibrige que j'estime beaucoup, qui a été ma marraine, qui m'a fait rentrer au Félibrige, c'est Marie-Noël Dupuis, qui est majorat du Félibrige. Eh bien, moi, je lui dis carrément Marie Nadal, carissimo.
Ça veut dire
Marie-Noël,
oui.
Mais carissime, c'est. C'est encore, c'est une estime.
Un estime, c'est mieux que
plus,
maître.
C'est
quoi.
Plus que très très cher, quoi.
Voilà.
Mais je le fais encore parce que il faut redonner aux mots leur vrai sens.
Oui.
Sinon, on banalise tout. Et
oui, oui. Voilà. Alors, l'appellation langue provençale, c'est récent, hein, qu'on appelle langue provençale. Hein, c'est comme la langue occitane. Avant, on disait quoi?
Mais alors, le provençal, la langue d'oc, elle est passée par le rusticitas, qu'on parlait en milieu rustique, et l'urbanitas, qu'on parlait dans les villes, parce qu'il y avait le parler des gens des villes et le parler des ruraux.
Oui, c'est ça, on l'a pas. Tu as raison d'en parler. À la campagne, on ne parlait, pas la même chose qu'en ville.
On parlait du Lémosis. Alors, le Lémosis a été très fort au XIIIe siècle, parce que les Catalans avaient deux langues au XIIIe siècle. Ils avaient le catalan de base, pour parler des affaires, et pour la poésie, ils utilisaient le limousin, la langue parlée en limousin. Cœur de naissance des troubadours.
Ouais.
Pourquoi ? Parce qu'ils disaient que, par excellence, le limousin était la langue idéale pour évoquer la poésie.
Ouais, voilà. Ouais.
Donc le limousin a fait partie de la deuxième langue des Catalans.
Ouais.
C'est, voilà. Donc, sinon, après, il y a eu d'autres noms. Il y a eu la langue d'oc, la langue d'oïl.
Oui.
C'est surtout, il paraît, le Dante Alighieri qui a donné ces noms-là. C'était la façon de dire oui. Chez nous,
oui,
on disait
ça.
Oc. Et on disait, oh, il a.
Voilà, la différence.
Et lui, il a fait la langue des scies,
oui.
Le toscan, mais avec beaucoup de mots occitans d'ailleurs.
Oui. Et tout ce qui est langue italienne, tout ça, enfin, traditionnelle, pas l'italien, les langues traditionnelles sont proches.
C'est le même schéma de pluralité.
Donc, les 32 départements français, ça pourrait descendre jusqu'à Rome.
Pas forcément.
Pas jusque-là, peut-être.
Pas forcément,
la plaine du Pô.
Oui, ça, après, on tombe dans les dialectes vénitiens.
Voilà,
c'est ça,
c'est différent.
Voilà, c'est différent.
Et ce qui est au niveau du sud de la France plus et de l'Espagne, avec le catalan, ça se rapproche.
Ah oui, complètement.
Voilà.
Moi, je discute.
Alors,
je
à Perpignan, les catalans sont. Moi, j'ai travaillé avec les catalans.
Catalans du Nord, on va dire.
Ouais. Moi, je m'appelle Jaume, alors ils étaient contents parce que je m'appelle Jacques Jaume,
c'est complexe parce que Jaume, c'est Jacques en provençal.
Voilà, et Jaime en espagnol. Donc, moi, j'étais très aimé des catalans, donc j'étais un des rares aimés par les catalans. Et je plaisante bien évidemment parce que je m'appelais Jacques. Alors, ils étaient tous contents.
C'est pour ça que je t'apprécie parce que moi, Reig, mon nom, est purement catalan.
Bon, mais c'est très bien.
Voilà.
Alors, deux petites questions. Qui parle actuellement le provençal?
Alors, ceux qui ont eu la chance d'avoir une langue transmise, qui ont eu des familles où la langue s'est transmise de proche en proche, de génération en génération, ils ne sont pas très nombreux. Je dirais qu'ils sont toujours moins nombreux, au fur et à mesure que le temps se débanne.
Mais excuse-moi, parce qu'on parle provençal à l'occasion des fêtes. Mais en dehors de ça, moi, je n'entends pas parler provençal.
En dehors de ça, moi, dans le village, j'avais un ami qui était très âgé, qui, quand on se croisait dans le village, on parlait en langue. Alors, il fallait voir les yeux écarquillés des gens
qui
nous
écoutaient. D'accord, mais enfin, à part les fêtes, les cérémonies, alors, il y a toujours la feria, une messe en provençal,
à
part ça, on ne le parle pas trop.
On ne le parle pas beaucoup, et non. Hélas, alors, entre gens qui connaissent la langue, ben, on se parle en langue, on se téléphone en langue.
Il faudra faire une séance à l'académie en provençal, comme ça, personne ne comprendrait.
Oui,
à part toi.
Non, peut-être pas, parce qu'on reconnaît quand même des mots. Là, je fais des chroniques pour d'autres radios, excusez-moi.
Oui, non, mais...
Eh bien, en provençal, la personne qui reçoit les chroniques me dit, mais finalement, parce que bon, j'envoie le texte avec, ce qui fait
oui,
que
mais
dans
quand
les podcasts,
on le lit, c'est pas pareil. Quand on le lit, on comprend.
Voilà, avec le podcast, il y a le texte.
Ouais.
Ce qui fait qu'elle me dit, mais il y a des mots, ben oui, parce que c'est une langue romane, comme
oui,
le
mais
français.
Ça, c'est comme l'anglais scientifique. Moi, je comprends, enfin, l'anglais, je comprends tout juste dans un aéroport, mais l'anglais scientifique, mitochondrie, c'est mitochondrie pour tout. Voilà,
technique, hein. Oui, c'est vrai que, ben oui.
On
oui,
le
oui,
comprend. Oui, hein. Oui. Et alors, bon, une autre question, c'est où enseigne-t-on le provençal actuellement?
Alors, dans quelques écoles publiques.
Oui.
Dans quelques écoles publiques, il n'y en a pas assez. Hein. On aimerait que ça se répande beaucoup plus.
Et qui l'enseigne? Ce sont des...
Alors, des professeurs bilingues.
D'accord.
Des professeurs qui ont leur CAPES de professeur en français, mm-hmm. et qui ont acquis la certification bilingue pour enseigner en provençal.
D'accord.
Qui parlent plus ou moins, à des degrés différents, plus ou moins bien le provençal, mais qui peuvent enseigner en provençal.
D'accord.
Et puis, beaucoup, beaucoup dans le milieu associatif. Nous, on a à peu près 25 écoles dans les 5 départements.
Donc des écoles privées, associatives.
Il y a des écoles associatives, comme je rends hommage à la Calandrette de Nîmes,
ouais.
avec Corinne et Marc, qui sont des grands amis.
Bon,
de
très
grands
bien.
Amis. Eh bien, ils enseignent la graphie classique, l'occitan, enfin, je veux dire, la langue d'ancienne, dans l'école. Mais ce sont des écoles associatives privées qui ont beaucoup de difficultés pour exister quand même. Hein.
Ouais, ça, moi, comme toute hommage, association. Ouais.
Je rends hommage à leur travail, parce qu'ils font un travail impeccable avec les enfants, puis d'entendre les enfants parler.
Alors, il y a beaucoup d'enfants qui parlent pas. Parce que moi, quand j'étais à l'école, il y avait toujours l'occitan. Au lycée, il y avait option occitan.
Voilà. Alors, c'est le problème de la réforme du bac a fait beaucoup de tort au lycée. Ce tort a déteint sur les collèges avec... je pourrais en faire, puisque je suis dans le mouvement pour que vivent nos langues, où nous étudions.
Oui, il faut se battre pour ça.
Oui, il faut se battre. Je vais dans les écoles. Je vais dans beaucoup d'écoles de la République pour donner des notions de culture et de langue aux pitchots. Et pour que tous les petits aient la même chance d'entendre un jour ce que c'est le provençal, qui est Frédéric Mistral, quoi. Voilà, donc, voilà, on se bat pour la survivance de la langue, mais on se doute qu'on n'est pas de plus en plus nombreux, quoi. C'est un problème.
Ouais,
il faut aller vers les jeunesses.
Et alors, au niveau universitaire, donc là, on a parlé du public jusqu'au bac, et au niveau universitaire
Alors, au niveau universitaire, c'est grave, c'est gravissime, parce qu'en Provence, donc toute la Provence, jusqu'à même Nice, tout ça, on ne peut plus suivre un parcours licence, master, doctorat.
Il y avait Avignon, mais tu m'as dit qu'Avignon...
Avignon, c'est fini depuis un bon moment.
Il n'existe plus.
Il reste Montpellier et Toulouse.
Ouais.
Et Montpellier et Toulouse, comme il y a toujours de moins en moins
de
candidats,
pour
préparer
eh bien,
une
thèse.
Il faut se douter qu'un de ces jours, on va se battre pour savoir qui sera le dernier des Mohicans, qui sera le dernier. C'est un problème de fond, parce que ça n'aide pas les gens à travailler ensemble. Ils se surveillent, ils s'épient un peu du coup de l'œil.
C'est grave. Savoir celui qui va
Alors
rester,
on espère qu'il y aura un sursaut, enfin, avec Pour que vivent nos langues. Je salue Claire qui modère tout ça. C'est une association formidable qui réunit toutes les grandes langues, les basques, les corses, les alsaciens, les picards,
c'est
etc.
C'est important.
C'est fondamental.
Le problème n'est pas de remplacer le français, bien évidemment, de garder une culture et un patrimoine. C'est un patrimoine.
Parce que les langues sont faites pour vivre côte à côte. Elles peuvent vivre côte à côte.
Mais
il y a la place.
Voilà, et puis on garde. Eh bien, très cher Philippe, cher maître, fait libre, merci infiniment de nous avoir parlé d'une langue que tout le monde aime, le provençal, et qui a certainement donné envie aux auditeurs de vouloir en apprendre plus, et que nous ferons par l'intermédiaire de nos émissions sur la régionalisation et qui évoque notre si remarquable Provence. Et si l'on parlait de la Provence, je profite de remercier Louis à la technique et Chalel au visuel. Je vous demande, si vous le voulez bien, de prendre votre cotisation à l'association de la radio pour que la radio puisse vivre. Philippe me tend le doigt parce qu'il veut dire quelque chose de plus.
Juste pour dire ce qui serait tenté de...
Une annonce.
Voilà, pour l'aventure provençale.
Voilà.
J'anime 2 cours en présentiel à Marguerite et à Beaucaire,
oui.
et 2 cours en visio.
D'accord.
Et les cours en visio, j'ai des gens d'Ukraine, de l'Espagne.
Et on peut te contacter comment? Sur Internet?
Oui, après ça sera en visio.
Non, mais on fait Philippe Reg, on peut prendre...
Oui.
D'accord,
oui.
Mais voilà, alors en fait...
En tout cas, il y a encore des possibilités.
Merci encore infiniment à toi Philippe, et à très vite pour une nouvelle émission, si on parlait de la Provence. Et comme on le dit en provençal, vous êtes à Dieu, à Désias.
À Désias.